pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Gercoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine. Et bonjour à tous et bienvenue dans notre 29e numéro de Pause Musicale. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Anne, bonjour chers auditeurs. Alors, la musique classique a souvent reflété, accompagné et symbolisé les guerres, oscillant aussi bien entre propagande, commémoration et expression de la résistance. Alors, la musique classique, outil diplomatique ou symbole de résistance? L'utilisation politique de la musique a jalonné l'histoire des conflits? Un historique qui entre en résonance avec l'actualité du moment marqué par les guerres.
Alors, depuis le Moyen-Âge, les compositeurs ont créé des œuvres inspirées par les conflits. La musique de bataille est un genre descriptif qui reproduit la dramaturgie des combats à travers des fanfares, des cris et des imitations d'affrontements.
Eh bien donc, la musique et la guerre, il faut bien reconnaître, n'ont jamais fait bon ménage. On sait les désastres causés par les guerres de religion, par exemple. Alors c'est ainsi qu'en France, en faisant un peu d'histoire, au début du XIIIe siècle, la malheureuse croisade des Albigeois, menée par l'Église contre l'hérésie cathare, met à feu et à sang le midi de la France. Conséquence musicale, eh bien la disparition des troubadours français qui, fuyant les conflits, se réfugient dans les pays proches. Un autre conflit lourd de conséquences, c'est celui qui oppose l'Angleterre et la France, qu'on nomma guerre de 100 ans, la fameuse. Dans un pays ravagé, la France perd la place essentielle qu'elle a si longtemps tenue au profit de quelques compositeurs étrangers. En résumé, eh bien, la musique classique en temps de guerre, je dirais, joue un rôle multiple, c'est-à-dire qu'il a un rôle commémoratif, mobilisateur, symbolique et même artistique, offrant donc un témoignage sonore des conflits et de la résilience humaine à travers les siècles. Eh bien, voilà. Tout ça pour qu'aujourd'hui, on vous propose une émission sur la découverte de la guerre dans la musique classique.
Alors, la première œuvre que nous vous proposons de découvrir est une pièce de Clément Jeannequin qui célèbre la bataille de Marignan. Facile, hein, quand même, c'est une date...
Allez, 1515.
Gagné. Clément Jeannequin, donc 1485-1558, était le plus célèbre chansonnier du XVIe siècle. Ses compositions, alors plus de 250, hein, paraît-il, chantonnées dans toute l'Europe, voire jusqu'au cœur de l'Amérique centrale. Hein, quand même célèbre, hein, le gars.
C'est très célèbre. Alors, si c'est bien pour célébrer cette fameuse victoire de François Ier sur les Milanais et leurs troupes suisses, à Marignan, et on répète, en septembre 1515, pour ceux qui l'avaient oublié, que Jeannequin écrivit la fameuse chanson de la guerre. L'œuvre ne fut publiée à Paris qu'en 1528, dans les chansons de maître Clément Jeannequin. Alors, Jeannequin n'est pas le premier à utiliser un argument militaire dans la musique vocale. Déjà au XIVe siècle, de nombreuses catchy italiennes avaient exploité des appels guerriers ou des sonneries de fanfare.
Écrite dans le ton de fa, alors beaucoup d'éditions modernes à usage choral la transposent maintenant en la. La chanson de Jeannequin en quatre voix, dans sa version originale, se présente en deux parties. La variété de la déclamation crée des changements de tempo auxquels s'ajoutent les oppositions fréquentes de densité polyphonique et de métrique, alternant le binaire et le ternaire. À l'époque, c'était très habituel. Pour faire de ces préparatifs au combat un spectacle extrêmement vivant, dans lequel on discerne aussi quelques cris. Alors, par exemple, alarme, suivez la couronne. Jeannequin y reprend diverses sonneries de trompettes qui devaient être déjà en usage en 1515. Ainsi, le bout de sel du début correspond exactement à celui que M. Mersenne mentionne en 1626 parmi ses chansons de la trompette dont on use dans la milice. Diverses batteries de tambours françaises, comme l'entrée de la marche « Frère, l'enfant » ou « Suisse, porpon, porpor » s'y ajoutent contrepointées par des mélodies de trompettes ou des fifres. Arbaud atteste là aussi que l'œuvre de Jeannequin constitue l'un des premiers témoignages écrits des signaux militaires. Mais rythme, bruit et onomatopée s'articulent de manière à tisser une trame narrative qui rend réellement présent le déroulement du combat jusqu'à la retraite des Suisses.
Oh,
Sympa, le vieux français. Hein.
C'était très agréable, hein, vous voyez. Et on exprime bien la pensée de la bataille, le vieux François, voilà, de l'époque de François Ier. On continue avec un autre grand personnage de la musique française, c'est Guillaume Dufay, une figure dominante de l'école bourguignonne, qui est né dans le Hainaut, hein, vers 1400 à peu près. Et après avoir été ordonné prêtre, il devient membre de la chapelle papale à Rome, puis à Florence et enfin à Bologne. Dufay bénéficia d'une éducation particulièrement soignée et voyagea beaucoup. Ceci, et non seulement son talent, explique pourquoi il occupe une position si importante dans l'Église de son temps. Alors, ses compositions lui valurent la célébrité, il faut quand même le reconnaître. Si bien qu'en 1436, il devint chanoine de la cathédrale de Cambrai, ville où il se retire pour mourir en 1474.
Alors, la messe de l'homme armé annonce sa dernière période. Otto Gombosi situe sa date de composition entre 1455 et 1460. Cette messe utilise la technique d'écriture à quatre voix qui commençait à devenir populaire dans la seconde moitié du XVe siècle. La messe l'homme armé est à cantus firmus. Alors, ça signifie qu'elle est construite sur une mélodie préexistante appelée cantus firmus, dont l'origine pouvait être diverse. Alors, soit elle emprunte un plein chant grégorien, soit une mélodie populaire, ou encore une mélodie composée librement. Le cantus firmus de la présente messe est emprunté donc à une mélodie profane française qui s'intitulait donc l'homme armé.
Alors, Guillaume Dufay est l'un des premiers compositeurs à penser la messe comme une œuvre unitaire, il faut le savoir. Hein. Nous allons retrouver un thème commun qui va permettre d'unifier les cinq parties de l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire le Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei. Eh bien, ce thème est emprunté à une mélodie préexistante qui, dans l'écriture polyphonique et qui, à cette époque-là, passe de plus en plus de trois voix à quatre voix, va être placée à la voix de ténor. La messe à prendre pour nom celui du thème emprunté, on parle de messe à ténor ou de messe à cantus firmus. Eh bien là, on va écouter le Kyrie de la messe de l'homme armé de Guillaume Dufay. Quelle belle pièce de Guillaume Dufay, cette messe de l'homme armé. Vous avez vu, quatre voix splendides. Je vous conseille de l'écouter en entier parce que c'est vraiment une pièce magnifique qu'a composée Guillaume Dufay. Alors, la Missa in tempore belli, la fameuse messe en temps de guerre. Eh bien, c'est la 10e messe et l'une des plus populaires de Joseph Haydn. Et oui, la messe est cataloguée messe numéro 10 en do majeur et est parfois désignée comme la Paukenmesse en raison de l'utilisation de timbales dans son orchestration. Néanmoins, il faut savoir que le manuscrit autographe comporte le titre Missa in tempore belli de la main d'Haydn lui-même, ne laissant donc pas de doute sur l'intention du compositeur quant au titre, et ce, depuis le commencement.
Alors, Haydn composa cette messe à Eisenstadt en août 1796, alors que l'Autriche était en pleine guerre. Après 4 années de guerre consécutives à la Révolution française, les troupes autrichiennes étaient en difficulté en Italie et en Allemagne, et l'Autriche craignait l'invasion. C'est l'esprit de ces temps troublés qui inspira les références guerrières qu'Haydn a insérées dans son œuvre. La messe fut créée le 26 décembre 1796 à l'église des paristes Maria Treuil de Vienne. Alors la prière de paix, c'est-à-dire la Agnus Dei, avec laquelle la missa se termine également in tempore belli, est en fait accompagnée de trompettes et de tambours, des sons qui étaient devenus familiers dans toute l'Europe d'autrefois. Le mouvement Dona Nobis Pacem, aux suggestions militaristes, donne une atmosphère agitée, un sentiment de menace imminente et grandissant. Le premier Agnus étant majeur, piano, le second après le roulement du tympan étant mineur et forte, qui n'ont aucun précédent dans le répertoire et qui confère une force particulière à l'invocation Dona Nobis Pacem, par laquelle se conclut le texte liturgique. Ça, c'est de la conclusion, ça.
N'est-ce pas?
Dis donc. C'est dit.
Comme quoi, c'est, voilà, c'est exprimé.
Affirmé.
Et on comprend tout à fait que c'est une force très particulière qui est donnée là par Haydn concernant la guerre, en tout cas. Allez, on continue. Allez, on continue de remonter le temps, puis on va avoir encore des morceaux qui vont petit à petit, s'exciter, en tout cas, prendre de l'envergure musicale. Et là, on va aller retrouver un compositeur que vous connaissez très bien, Beethoven. Beethoven avec sa fameuse bataille de Wellington, opus 91, que l'on peut trouver aussi sous le nom de La Victoire de Wellington. C'est une œuvre orchestrale longue de Ludwig van Beethoven qui a été composée en 1813 pour célébrer la victoire du duc de Wellington sur les fameuses armées napoléoniennes à Vitoria-Gasteiz en Espagne le 21 juin 1813. Alors, l'œuvre achevée en octobre 1813, La Victoire de Wellington fut créée lors du concert du 8 décembre de la même année. Et la petite histoire dans la grande, qui vit aussi la création de la fameuse 7e symphonie de Beethoven, voyez-vous. Et ses amis, qui étaient autour de Beethoven, considéraient l'œuvre comme une énorme plaisanterie musicale. Et y participaient par amitié comme une fredaine professionnelle. Vous avez vu, ils y allaient jusqu'au bout. Hein.
Voilà.
Eu égard au sursaut patriotique qui secouait l'Autriche à cette époque, eh bien, il faut le savoir quand même que cette œuvre a eu un succès colossal de ce concert qui semble avoir été plus largement dû certainement à la victoire de Wellington qu'à la symphonie elle-même.
Alors, la bataille de Wellington est composée pour grand orchestre. Alors, comme d'habitude, des cordes, des bois, des cuivres et les percussions. Alors, je vais vous énumérer parce que là, franchement, il y a timbales, tambours, cymbales, grosses caisses et alors, figurez-vous, fusils et canons.
Et oui,
voilà.
Et voilà,
ça c'est quand même un peu...
C'est la nouveauté.
L'effectif orchestral est donc imposant et dépassait les normes de l'époque. Cela s'explique par l'effet spectaculaire souhaité. Précisons que c'est la première œuvre dans l'histoire de la musique à nécessiter un effectif aussi important, anticipant ainsi les nouveaux orchestres symphoniques de l'époque romantique. Et oui, Beethoven toujours en avance sur son temps.
Voilà, dont un certain Berlioz va copier ces fameux grands orchestres.
La victoire de Wellington décrit la bataille entre les forces françaises et anglaises et ouvre aussi, ainsi la voie à ce genre musical propre au romantisme. L'idée originale pour l'époque est la reprise d'un thème de la France, Malbrook s'en va en guerre.
Voilà.
À la fin de la bataille, en mineur et déformé de façon à suggérer, la déroute française.
Voilà. Alors effectivement, comme a dit Anne, c'est aussi la première fois que l'on trouve des fusils et des canons qui sont utilisés dans l'orchestre. Mais attention, cette petite innovation de Beethoven a été reprise par Tchaïkovski lui-même dans sa fameuse ouverture 1812. Restez bien à l'écoute parce que vous allez la vivre aussi. Et Beethoven précise aussi à chaque coup de canon tiré, si celui-ci provient des troupes de l'empereur ou du duc, comme pour les fusillades, par exemple. Alors, de même, Beethoven utilise le même procédé avec les tambours, une différenciation de l'ostinato rythmique, et les trompettes, différenciation de la tonalité. Voilà.
Malbrook s'en va en guerre.
Voilà, c'est ça. Voilà.
J'espère que vous l'avez reconnu.
Vous l'avez bien reconnu. Hein, et alors, juste pour vous situer un petit peu le thème que vous avez entendu, c'est ni plus ni moins le thème que Beta va choisir. D'un côté, et les tambours font le travail du reste avec les trompettes et autres, c'est l'arrivée des troupes napoléoniennes et Malbrook s'en va en guerre, que vous avez, j'espère, bien reconnu. C'est les troupes du duc de Wellington, voyez-vous. Et ils arrivent sur le champ de bataille. Et après, je vous conseille d'écouter la bataille de Wellington par Beethoven et vous allez voir les coups de fusil et les canons. Bienvenue sur Pause Musicale, on continue notre émission sur la guerre dans la musique classique. Et là, allez, on évolue encore, on va aller encore sur une musique encore plus marquée et on va retrouver notre cher ami Schubert avec les trois marches militaires opus 51 qui sont trois pièces à l'origine hein, pour piano à quatre mains de Franz Schubert.
Non, je suis sûr que vous la connaissez.
Oui.
C'est un tube.
Et vous allez vite voir et comprendre.
Vous l'avez entendu.
Effectivement, que cette marche est vraiment signe de musique militaire et utilisée pendant la guerre. Alors, la première des trois, donc, est bien sûr la plus connue que les deux autres. Je dirais que c'est, effectivement, comme a dit Anne, c'est la composition, je dirais, la plus célèbre de Schubert. Et elle est souvent simplement appelée Marche militaire de Schubert.
Et oui. Alors, on ne sait pas quand les marches militaires ont été écrites. De nombreux érudits indiquent 1818, mais certains préfèrent des dates alternatives comme 1822 ou 1824. On pense qu'elles ont été écrites pendant le séjour de Schubert dans la résidence d'été du comte Esterházy en Hongrie. Alors, il y était professeur de musique pour ses filles et ses pièces et d'autres similaires étaient écrites à des fins pédagogiques. Cette marche numéro 1, opus 51 en ré majeur, est l'une des mélodies les plus célèbres de Schubert. Et elle a été arrangée pour orchestre symphonique, mais aussi pour orchestre militaire, ainsi que pour de nombreuses autres combinaisons d'instruments. Alors, cette pièce Allegro Vivace a été souvent utilisée pour des fins publicitaires, des films d'animation, entre autres, chez Disney, voire dans des passages de films ou des séries télé. Vous allez voir, vous allez vite la reconnaître.
Allez, bonne écoute. Et voilà, on vous l'a laissé en entière. Pour vous faire plaisir, tellement que c'est un tube. Il y a deux choses chez Schubert que vous devez connaître par cœur, c'est la marche militaire de Schubert et la truite.
Voilà.
Voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez après continuer à écouter Schubert différemment. Voilà, non, mais c'est une très belle marche. Il faut savoir qu'elle a des fois été utilisée dans les concerts de Nouvel An, parce que c'est une marche qui se danse très bien
et qui est
magnifique. Ouais. Alors, on va continuer, et là, on va retrouver un personnage qu'on vous a cité tout à l'heure, avec l'ouverture solennelle 1812, également connue sous le nom de l'année 1812. C'est une œuvre, j'allais dire, emblématique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui a été composée entre 1880 et 1881 pour tout simplement commémorer la victoire de la Russie, et encore une nouvelle fois, contre l'armée napoléonienne en 1812.
Et oui. Alors, l'ouverture commence par un hymne annonçant l'entrée en guerre de la Russie, suivi de chants solennels et de thèmes évoquant les armées en marche. Elle inclut des éléments symboliques tels que la victoire française à la bataille de la Moskova, représentée par, mais vous ne devinerez jamais.
Allez, il a osé, hein, il a osé. La fameuse Marseillaise.
Incroyable quand même. Hein. Alors, tendez bien l'oreille. Hein. Et des thèmes populaires russes annonçant les revers de Napoléon. Arrivent enfin les coups de canon représentant l'avancée russe à travers les lignes françaises. Puis les cloches et les salves de canons célèbrent la victoire de la Russie et la défaite française. Dieu sauve le tsar. L'hymne impérial russe retentit alors en opposition avec la Marseillaise entendue précédemment. Durant la période soviétique, le thème de l'hymne Dieu sauve le tsar fut souvent remplacé par celui du chœur final de l'opéra Une vie pour le tsar de Mikhaïl Glinka. Alors le thème principal de cette œuvre, joué à la fin par les trompettes, peut être aisément joué, bien que cela n'ait pas été prévu pour, à la trompette naturelle ou à la trompette de cavalerie en mi bémol, puisque les notes constituent les harmoniques naturelles de l'instrument.
Voilà, alors juste la petite histoire dans la grande, il faut savoir que l'ouverture est devenue, je dirais, un symbole de fierté nationale pour les Russes et a été utilisée dans divers films et œuvres artistiques au fil des ans. Et alors, moi ce que j'aime bien, c'est la phrase de Tchaïkovski. Comme quoi, il y a des fois, pas prophète dans son pays, on va dire. Tchaïkovski dit de cette œuvre, « L'ouverture sera très explosive et tapageuse. Je l'ai écrit sans beaucoup d'amour, de sorte qu'elle n'aura probablement pas grande valeur artistique. »
Il y en a beaucoup qui ont dit ça. Hein,
oui, il y en a beaucoup qui ont dit ça sur leurs œuvres. Ils se sont bien trompés. Ouais. Enfin bref, il faut savoir quand même que l'ouverture de 1812 est une œuvre qui dure une quinzaine de minutes. Nous, on va vous en faire écouter un extrait de l'ouverture seulement. L'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Allons-y.
Thank you.
C'est impressionnant.
Ah, quand il voulait quelque chose d'explosif, de tapageur,
entre les
là...
coups de fusil et les cloches, on est en pleine scène de cinéma, là.
Voilà, incroyable. Vous avez tout eu. Alors, vous avez vu, oui, voilà, vous avez tout eu. Vous avez eu la Marseillaise, vous avez eu les coups de fusil, vous avez eu les cloches qui signent la victoire de l'armée russe sur l'armée napoléonienne, et vous avez même eu, à la fin, les canons qui symbolisent cette fierté russe d'avoir battu
l'armée
napoléonienne. Ah, il a fait fort, Tchaïkovski. Là, Beethoven, à côté, avait initié l'affaire.
Ah ouais, mais il était
encore
plein pot,
ouais, complètement à fond. Mais alors, c'est une œuvre qui dure vraiment un quart d'heure, donc il faut l'écouter en entier. Mais vous allez voir, c'est des passages extraordinaires. Vous avez, ouais, comme Diane, ouais, vous avez les images en même temps que vous l'écoutez. C'est un vrai film.
Si vous pouvez voir les percussionnistes à l'œuvre, là, c'est
extraordinaire.
C'est rigolo. Là.
C'est extraordinaire. Alors, on continue notre émission et on va aller, allez, on continue toujours dans le même thème. Et parmi les nombreuses compositions populaires, eh bien, Frédéric Chopin. Et oui, lui aussi. Au 1810-1849, aucune n'est mieux adaptée à l'orchestre de concert que sa polonaise militaire, polonaise opus 40, numéro 1. Alors, cette transcription habile donne vie au rythme puissant et aux fanfares brillantes de ce chef-d'œuvre. L'ensemble du groupe brille par des parties, je dirais, intéressantes pour les vents, les cuivres et les percussions. Et cette transcription passionnante, allez, on va employer le terme, peut aussi bien servir d'ouverture, je dirais, que de conclusion à un concert, n'est-ce pas, Anne?
Frédéric Chopin a écrit ses jumelles polonaises opus 40 en 1838. Ces deux pièces suivent la tradition des pièces de Jean-Sébastien Bach, Mozart et Schubert, en incorporant rythme populaire dans une pièce pour clavier. La polonaise numéro 1 en la majeure, souvent surnommée militaire, a été décrite comme un symbole de la gloire polonaise. C'est presque entièrement joué forte ou plus fort, ce qui est en fait une performance grandiloquente. Lors de l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, donc, la radio polonaise, figurez-vous, a diffusé quotidiennement cet article en signe de protestation nationaliste et pour rallier le peuple polonais.
Ben vous allez comprendre tout de suite.
Thank you.
Moi, je trouve que c'est une des plus belles polonaises que j'aime de Chopin. Il y en a fait d'autres belles aussi, mais celle-là, moi, je l'aime bien. Puis je trouve que c'est une... C'est vrai que c'est une musique qui...
Elle est très connue
de Chopin. Mais je comprends pourquoi la radio polonaise a diffusé au début de la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment quelque chose qui donnait envie de défendre son pays et ses idées. Allez, on continue d'avancer dans la musique et dans le temps. Et là, on va se retrouver le 2 décembre 1990, jour où disparaissait Aaron Copland. Alors, c'est celui que l'on considère comme l'un des pères fondateurs, je dirais, de la musique symphonique américaine, et a aussi composé une fanfare étonnante.
Un tube, hein, aussi.
Ah, c'est un tube.
Alors, celui-là, vous l'avez tous entendu, sûr. Obligé.
Obligé, oui, complètement. La fanfare For the Common Man, composée donc par Aaron Copland, là, en 1942. C'est une œuvre de musique classique pour cuivre et percussion, je dirais, qui s'inspire du jazz et du folklore américain. Alors, timbales, gong et grosse caisse, à ces trois percussions répondent trois trompettes, puis quatre cors.
Alors, dès les premières notes, vous allez reconnaître.
Ah oui, tout de suite.
Sûr.
Bientôt, toute l'harmonie répondra à cet appel aux armes, intitulé Fanfare, donc For the Common Man. La fanfare pour l'homme ordinaire, tout simplement.
Elle a été commandée par Eugene Goossens à l'ensemble des compositeurs américains, alors chef de l'orchestre symphonique de Cincinnati pour un effort de guerre patriotique. Seule la version de Copland restera la plus belle et la plus originale, car finalement, elle ne parle pas seulement de la guerre ou des Américains, mais de tous les oubliés de l'histoire, les hommes et les femmes ordinaires.
Tout à fait.
Le titre de cette fanfare provient d'un discours du vice-président des États-Unis de cette époque, Henry Wallace, qui expliquait que l'âge qui émergera de la Seconde Guerre mondiale peut et doit être celui de l'homme ordinaire, The Common Man. Copland a donc choisi ce titre fanfare For the Common Man, le fanfare pour l'homme ordinaire, en réponse à l'idée de faire de ces fanfares une contribution significative à l'effort de guerre. Cette fanfare est devenue l'hymne officieux des États-Unis, symbolisant l'humanité et l'unité face aux défis de l'histoire. Une musique qui résonne lors des meetings politiques, bien sûr,
oui,
des cérémonies officielles, bien sûr, des commémorations américaines et alors dans des extraits de cinéma. Vous l'avez entendu, c'est sûr, vous allez voir.
Et voilà.
C'est beau, hein ?
N'est-ce pas ? Magnifique, une pièce superbe. Hein, et vous avez dû certainement l'entendre, effectivement, dans les commémorations américaines. Ça a été surtout utilisé quand on a fêté l'anniversaire du débarquement en France. Et voilà. Alors, on arrive eh bien, à la fin de notre émission. Et puis, vous commencez à bien nous connaître, j'espère. Moi, j'aime bien aller vous chercher des petites pépites. Et là, je vous en ai trouvé une. Et là, on va aller vers un grand compositeur français qui a, en fin de compte, effectué sa dernière grande œuvre symphonique. C'est celle de Saint-Saëns, qui s'appelle Les Lauriers de l'œuvre complète. C'est Cyprès et Laurier, opus 156. Et Les Lauriers, cette page éclatante pour orgue et orchestre, dont vous allez écouter un large extrait, résonne comme un écho, tout simplement, de la victoire alliée de 1918.
Elle constitue, après le deuil et le recueillement intime d'une première partie dévolue à l'orgue soliste, le second volet du diptyque Cyprès et Laurier, marqué évidemment en 1919 par le traumatisme de la Grande Guerre. Malgré son caractère académique, voire pompier et tout officiel, l'ensemble est dédié par le compositeur au président Raymond Poincaré.
Eh oui.
L'allant de cette marche triomphale, assez pimpante, ne manque pas d'attrait. Elle semble du reste faire contrepoint au final de la célébrissime symphonie numéro 3 avec orgue,
magnifique.
On vous en a déjà parlé, dont on retrouve par endroits quelques malicieuses citations. Cette œuvre, longtemps méconnue, vient surtout de retrouver quelques nouvelles jeunesses, toutes républicaines et
élyséenne.
Et oui,
tout à fait.
Figurez-vous, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le président actuel l'avait choisi parmi ses choix musicaux en ouverture de son investiture présidentielle dans une version arrangée pour formation de chambre de l'orchestre de la Garde républicaine. Donc, de Poincaré à Macron, et oui. Le parcours musical et historique, même anecdotique, n'est sans doute pas inintéressant ici.
Tout à fait. Thank you. Et voilà. Quand je vous avais dit que je vous trouverais une petite pépite, je l'ai trouvée. Elle est pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Notre émission était maintenant terminée. J'espère que ce thème de la guerre, malheureusement, je dirais un peu d'époque et d'actualité, on va dire, dans la musique classique, en tout cas, aura su éveiller en vous le désir de découvrir encore la musique classique autrement. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis, on se dit tous à très bientôt. Au revoir, Anne.
Au revoir, Jean-Luc. Et au revoir à tous nos auditeurs. Et à bientôt. Pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.